Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Good morning, Bessoma. Aujourd'hui, nous sommes à Amershuir. Le domaine Geschicht est en biodynamie depuis 1998. Leurs vins sont certifiés Demeter. Ils produisent à la fois des créments d'Alsace, des pétnates, des vins blancs, des vins rouges, des vins de terroir, des vins de lieu, des vins funky. Ils ont deux grands crus, mais surtout beaucoup d'amour dans leurs vins. Avec Arnaud, nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment son parcours, ses valeurs, mais aussi l'attraction animale, d'agroforesterie, de vergers, de cerises. Et nous avons surtout goûté des vins exceptionnels.
Une question sur la créativité. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la créativité ?
Oh là là, vache. C'est au bac de philo en 98, justement.
Ouais. Oh punaise. Relation entre le terroir et la créativité. Tu l'avais noté, ça ?
Ouais.
Bravo.
Bravo.
Il me faudra un petit temps pour y réfléchir, mais on peut toujours trouver des liens, ouais.
Ouais.
On a combien de temps au bac ? 4 heures. Et effectivement, en fonction de... En fait, ça me revient par rapport au Vinek Schlossberg d'avant, entre le terroir et la créativité. Et il y a, avec les aléas climatiques qu'on connaît, les cépages qui sont installés en Alsace, des dégénérescences, en fait, si tu veux, des choses qui ne marchent plus, tu vois. Que ce soit des cépages, des manières de faire les choses, de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement avec les plans de palissage, un domaine de haut et tout ça, qui t'oblige à être créatif. Et du coup, à envisager de nouveaux types de vinification, genre une macération d'un mois égrappée, puis élevée en amphore, tu vois. C'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand-père, il va rien comprendre, quoi. Alors qu'il a fait du vin toute sa vie. Et donc, je pense que, ouais, tu vois, pour ce genre de choses, pour finalement s'adapter, pour se renouveler, pour aller de l'avant, pour faire mieux, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Eh, ça fait longtemps, ça fait un peu longtemps que j'ai pas dit cette phrase, ça m'a un petit peu manqué. Comment tu vas, Adrien ?
Ça va, ça fait très longtemps aussi que j'étais pas à côté de toi quand tu faisais une intro, donc ça fait bizarre.
Alors aujourd'hui, on est chez des gens que je voulais voir depuis longtemps parce que en fait, je les connaissais pas, mais je connaissais déjà un petit peu leur flacon, leur qui. T'as déjà goûté Obi-Wine par hasard ?
Ouais, j'avais découvert cette cuvée chez Oenosphère il y a quelques années maintenant. Après, ça fait quelques temps que j'ai pu remettre mon nez dedans, donc peut-être que ce sera le cas aujourd'hui.
Alors, c'est un petit domaine qui a été créé, en tout cas qui est en biodynamie depuis 1998. Alors, je le regarde, alors j'ai pas encore dit qui c'est, mais s'il tique pas, c'est que c'est bon. D'ailleurs, dont l'oncle était l'ancien président de Demeter, France. Donc, on va parler, je pense, beaucoup de biodynamie. C'est des gens que moi j'aime bien, qui sont vraiment solaires. Je crois que à Amershuir, il y a un soleil un petit peu différent. On a fait quand même binaire, mais c'est bien, des gens qui sont souriants. Alors, Aurélie n'est pas encore là. Par contre, il y a Arnaud. Donc, on est chez les Geschicht. Salut Arnaud.
Oui, bonjour à tous.
Merci de nous accueillir. C'est vraiment un plaisir. Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur parce que je savais que j'allais aller chez les Geschicht. Comment est-ce que tu vas ?
Eh ben, super bien. On est ravis du coup de vous accueillir aujourd'hui à la cave.
Est-ce que tu connais le podcast ?
Ouais, j'ai eu l'occasion via Spotify de vous écouter l'une ou l'autre fois. Et d'écouter du coup plusieurs interviews de confrères, effectivement. Ouais.
Ça va, on dit pas trop de conneries ?
Pas que, ça va.
Ouais, un petit peu aussi.
Bah, il faut.
Alors écoute, moi ce que je te propose pendant le temps qu'on est ensemble, c'est que tu me parles un petit peu de l'histoire du domaine, en parler votre parcours à Aurélie et à toi, et puis voir un petit peu goûter des vins forcément, et puis pourquoi pas parler de biodynamie, etc. Est-ce que ça te va comme programme ?
Allez, on y va.
C'est parti. Du coup, tu nous disais que c'était ta grand-mère et son frère jumeau qui avaient créé le domaine, c'est ça ?
Alors non, pas vraiment. En fait, le domaine en l'état... si tu veux, d'un point de vue de l'infrastructure et du parcellaire, date des années 70, de l'installation de mon grand-père, en fait, dans ses locaux, qui a racheté le domaine familial, en fait, de sa femme, du coup, de ma grand-mère, qui, comme je te le disais avant, était meilleure. C'est pour ça qu'on a la belle gravure en haut, donc avec ma grand-mère à gauche et son frère jumeau à droite. Mais le domaine, du coup, avait été reconstruit donc après-guerre, donc après les bombardements de décembre 44, par mon arrière-grand-père, du coup. Et mon grand-père, du coup, a racheté le domaine à sa belle famille, remanié et réagencé à peu près en l'état, quoi, du coup. Voilà.
D'accord. Et du coup, 98, alors on monte un peu le temps. Il est passé le domaine est passé. Donc c'est l'oncle qui a commencé à mettre les graines de la biodynamie.
Ouais, tout à fait. Donc avant 98, il y a début des années 80, donc l'installation de mon père pour remplacer mon grand-père qui officiellement partait à la retraite et effectivement rejoint par mon oncle dans les années 90. Pour passer en bio, en biodynamie dans les années 98. Mon père, du coup, est décédé en 2002. Mon oncle a récupéré le domaine totalement, du coup, à ce moment-là. Et moi, je suis arrivé sur le domaine en 2011, Aurélie en 2012. Voilà. Mon oncle est sorti du domaine là au 31 juillet 2021 et est remplacé par Aurélie qui va s'installer au prochain exercice. Voilà, donc on parlait effectivement de biodynamie depuis 98, donc c'est quelque chose que j'ai toujours vécu assez naturellement finalement, parce que quand tu vois ou quand tu regardes tes parents faire quand t'as 10 ans, en fait ça paraît pas bizarre, donc voilà, et finalement de faire perdurer aussi ce type d'agriculture était... pas une question, en fait, c'était juste tu continues, c'est normal, c'est comme ça, c'est le boulot. Et voilà, en intégrant du coup, ou en tout cas en y apportant notre pâte à Aurélie à moi, qui est quand même des vinifications un peu plus libres, disons-nous. Donc avec pas ou très peu de SO2, plus de filtration, des élevages assez longs, assez poussés. On a la chance d'avoir un chai de foudre qui est vraiment super chouette, super adapté à notre production. Donc voilà, on en profite, on fait des élevages longs, assez poussés. Quand je dis long et poussé, c'est entre 12 et... voilà, j'ai encore des 2016 en élevage, on est en 2021, quoi. En foudre barrique, ouais. Ouais. Et voilà, notre pâte, donc ça c'est pour notre pâte un peu personnelle d'un point de vue de la vinification. Et actuellement, on met aussi du coup un point d'honneur à se détacher un peu de tout ce qui est mécanisation, qui était quand même, malgré le fait d'être en biodynamie et en bio depuis longtemps, quelque chose de vachement présent, vachement ancré finalement, même que ce soit chez nous ou dans beaucoup de domaines, quoi. Tu peux faire du bio et de la biodynamie sur des sols morts, quoi. Je dis pas que c'était forcément le cas chez nous, mais voilà, tu peux. Et donc, voilà, là, on met un point d'honneur à faire un maximum de choses à la main, de faire très peu de tracteurs. Donc, certaines parcelles, on passe plus du tout en tracteur. On fait les traitements, par exemple, en quad et les labours à cheval depuis quelques années maintenant, parce que j'ai la chance, du coup, d'avoir un voisin prestataire en traction animale. Et depuis peu, voilà, on a adopté un cheval avec Aurélie et on a commencé, là, à labourer nos propres vignes avec notre propre cheval.
Iris est rentré dans votre vie.
Ouais, donc irrésistible de Rochelle. Donc Iris, c'est son diminutif. De Rochelle, c'est parce qu'elle est née à Rochelle. Et donc, c'est en Haute-Marne. Et c'était un super éleveur plus réactif. Et c'est le genre de gars qui m'a dit « Oh, tu sais, moi... » Je prends un peu l'accent de là-bas. Hein. « Oh, tu sais, moi, des chevaux, j'en ai qu'une vingtaine. Parce que sinon, je peux pas faire des câlins à tout le monde le matin. » T'es là, tu dis « Ok. » Donc ça, tu vois, c'est déjà une bonne approche, quoi.
C'est peut-être la meilleure, non ? T'as bien à faire des câlins à chevaux ?
Quand j'étais plus jeune, j'adorais les chevaux. Et puis, depuis, ça m'est un peu passé. Mais ouais, effectivement, il y a un rapport avec, avec l'énergie animale qui est assez important. Peut-être encore plus dans les domaines qui sont en biodynamie. Je sais pas ce que t'en penses.
Le rapport avec l'animal, ouais. Encore plus en biodynamie. Ouais, en fait, on utilise des préparats pour ramener... une espèce d'information d'animal au champ, mais ramener un vrai animal, c'est peut-être encore mieux, quoi. Donc effectivement, c'est vachement cohérent et c'est vraiment la suite logique pour moi d'une culture en biodynamie. Après, il y a plein de... Je suppose qu'il y a plein de domaines en biodynamie qui pratiquent l'attraction animale, hein. Enfin, faut pas faire de mauvais raccourcis, quoi. Mais ouais, moi, l'attraction animale, c'est un truc qui m'a... qui m'a assez rapidement causé quand j'ai vu, en tout cas, quand j'y ai eu accès. Quand j'ai vu, du coup, mon voisin, qu'on ira voir après s'il est là, labouré avec ses chevaux, d'entendre le bruit d'un soc qui retourne la terre. Enfin, quand je retournais la terre, c'était avec un casque anti-bruit, France Inter, tu vois, et on va tout droit, quoi, tu vois. Et de voir ça, de dire OK, et puis de prendre finalement de la terre dans les mains, quoi. Et puis mine de rien, être à la vigne avec un tracteur, t'es solitaire, quoi. Et avec un cheval, t'es jamais seul, quoi. Et donc c'est un autre rapport. Enfin c'est un autre rapport au temps, à l'énergie. Et je me souviens bien d'une journée qui m'a marqué, d'un moment qui m'a vraiment marqué. Et je crois que t'étais présent d'ailleurs. C'était la journée de traction animale. J'étais avec mon ancien formateur Pierre et Cécile Simler. La ferme est bas, que je salue, que je regardais labourer. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'il me tende les guides, le cordeau. Et j'étais comme un gamin, tu vois, à sautiller, genre, ouh, c'est à mon tour. Et je me suis arrêté une seconde, je me dis, si ça, de cette envie-là, j'arrive à en faire mon quotidien, bah, je suis plus heureux, quoi, c'est tout. Et voilà, c'est un moment qui m'a marqué, et je me dis, voilà, et du coup, je repasse des moments, en fait, de super kiff, tu vois. Et c'est peut-être un truc que j'avais un peu perdu à la vigne.
On entend souvent ça, ceux qui labourent avec un animal, ils prennent plus de temps par pied, alors que si t'es dans ton tracteur, bon, tu fais les choses de façon mécanique, tu fais rang par rang, et puis ça se fait mécaniquement, quoi.
Ouais, c'est effectivement pas la même approche. Après, c'est comme tout, je pense, faut pas en faire une religion, quoi. C'est pas parce que tu fais du tracteur que t'es une mauvaise personne ou que tu fais du mauvais vin. Enfin voilà, c'est un choix. C'est avant tout un choix personnel, Aurélie, à moi, de faire ça parce que bon, t'imagines bien qu'il faut en assumer les conséquences, quoi, de tout ça. Et voilà. Enfin, on parlait de notre habitation à Fréland avant, donc on a aussi pas mal de terrain et ça permet d'accueillir un cheval dans de bonnes conditions. Voilà, enfin un cheval c'est du temps, de l'énergie et
Paul Winnecke-Schlossberg, je sais pas si tu laboures là-bas, mais c'est quand même hyper pentu, quoi. Si j'ai bien ces parcelles en tête, c'est sportif, quoi.
Ouais, le Winnecke-Schlossberg, ça fait peut-être partie des parcelles qu'on va pas faire en traction animale.
Et que Kefirkop, ça passe.
Oui, je pense, ouais. Ouais. Après, on n'a qu'un seul cheval, elle est assez jeune, donc on va pas faire énormément de surface avec elle. On espère faire 3-4 hectares là très prochainement. On va pas s'arrêter d'embaucher du coup le prestataire pour mais voilà, en fond, à terme, on veut se débarrasser des tracteurs, ça, c'est clair.
Il va avoir une écurie en plus une écurie avec c'est pas mal, c'est une idée, non?
Mais jamais dire jamais. Hein. Enfin, moi, tu me disais que j'allais acheter un cheval, moi, qui n'ai jamais eu un animal de compagnie, tu vois. Ni chat, ni chien, ni rien, tu vois. Si on m'avait dit il y a 2 ans que j'aurais un cheval de travail, jamais je t'aurais cru. Et voilà, enfin, on en est là. Et on en est à se dire, ouais, dans 2-3 ans, si ça va bien, un deuxième cheval et un troisième. Et une écurie, jamais dire jamais. Hein. Enfin, Antoine Kreidenweiss et Charlotte ont 2-3 chevaux. Ouais. Et enfin, si eux le font, pourquoi pas d'autres?
Puis on a d'autres vignerons qui ont des moutons, comme Yann Durman, par exemple.
Des moutons, pourquoi pas. Effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Hein.
C'est la preuve que, visiblement, en tout cas, on les avait vus, les moutons. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est plutôt bien. Alors moi, t'as dit quelque chose qui est, alors plusieurs en ont déjà parlé, mais je crois qu'on l'a jamais expliqué. Pourquoi le quad?
Ah, le quad, ouais, une grosse révolution pour nous. Ça fait 5-6 ans qu'on s'est équipé d'un quad. C'était des confrères, Léon Heintzmann, qui est un voisin, un ami à côté, qui lui traitait avec ça depuis quelques années. Alors, comme tout précurseur, tu le regardes un peu genre, ouh là là, qu'est-ce qu'il nous fait encore, lui? Et en fait, le quad, ça pèse 200 kilos, un tracteur, ça pèse 1,5 tonne. Le quad, ça a des suspensions, pas mes tracteurs. Le quad, entre deux parcelles, ça peut rouler à 80 km/h, le tracteur à 40. Enfin, je m'arrête là. Ou...
c'est pas mal.
Ouais, en fait, c'est d'un point de vue...
Pardon ?
Le prix aussi qui doit être complètement différent. Enfin, un quad, ça doit être 100 fois moins cher qu'un tracteur, non ?
Ouais, c'est 100 fois moins cher. Et en fait, agronomiquement, c'est hyper intéressant parce que, on sort d'une campagne de traitement, par exemple, qui était assez compliquée. Ou quand il fallait y aller. Et quand il pleut la veille et que tu rentres avec 1,5 tonne dans un rang de vigne, ça fait mal. Quand tu rentres avec le quad, tu regardes derrière toi, tu vois pas que t'es passé, quoi. Et donc ça, agronomiquement, c'est quelque chose de c'est assez une avancée incroyable qui semble toute bête, en fait. Il fallait juste y penser.
Tes parcelles sont très éloignées les unes des autres ou t'as un peu tout d'un seul tenant
On a, sur les 11 hectares et demi du domaine, 35 parcelles dans un périmètre. 5 km à la ronde, quoi, entre Katzenthal, en bas, à la Pommeraye, et 4 hectares sur le Kefarkopf, après, le quoi. On n'est pas trop mal loti. Effectivement, mon grand-père avait fait un gros boulot quand même de remembrement quoi à l'époque, et plutôt des bons gros îlots quoi. Ouais, on a quand même cette chance-là effectivement. Mais t'es jamais à l'abri d'une panne à Katzenthal. Enfin, t'es content en fait de pouvoir rentrer en quad plutôt qu'en tracteur quoi. Hein, c'est clair.
Et justement, on parlait des parcelles. Le domaine Geschicht. Alors, t'as un grand cru, je crois. Il me semble que le Kefarkopf, oui. Je réfléchissais. Mais... Non, en fait, j'hésitais avec le Schlossberg, c'est pour ça. C'est quoi les terroirs que tu as? C'est quoi les parcelles de lieux-dits que tu as?
Donc, on a plusieurs grands crus. Donc, on en parlait avant avec les Katzenthaler, c'est le Winnek-Schlossberg, qui est un assez petit grand cru, qui est, en tout cas, pour ce qui est de nos parcelles, assez haut en altitude. Et le Kefarkopf, en fait, qui est le grand cru un peu plus au nord, qui se touche, qui est composé de plusieurs entités géologiques, contrairement, par exemple, au Winnek-Schlossberg ou au Schlossberg, tu vois, où c'est vraiment un bloc, pour le coup, de granit. Le Kefarkopf a vraiment plein d'entités géologiques différentes. Et du coup, on a pris le pli maintenant de faire du parcellaire, si tu veux, sur le Kefarkopf, en nommant par le nom du lieu dit dans le grand cru. Parce que il y a c'est vraiment un grand cru super hétérogène quoi. Alors ça peut apporter toute une complexité à un vin si tu les assembles, mais ça peut des fois, selon moi et bon je pèse mes mots, des fois manquer un peu d'identité. On a également du coup plusieurs ledits, le Neutal qui est pas très connu, le Himmelschloss qui commence à être revendiqué, qui sont un peu dans les clous du mouvement des premiers crus, je sais pas trop ça où on est.
Ah ça. Bon où est-ce que ça en est? Si quelqu'un écoute le podcast, dites-nous où ça en est. On aimerait bien savoir.
Ouais, je serais curieux. J'espère que ça fait pas saigner les oreilles de certaines personnes. Mais en tout cas, voilà. Et donc, grosso modo, on a une bonne moitié sur les coteaux, une bonne moitié dans la plaine.
C'est plutôt pas mal. Et c'est justement, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'il y a déjà un impact? Est-ce que tu vois une évolution depuis que tu plantes des arbres?
C'est difficilement quantifiable parce que ça fait que 3-4 ans maintenant qu'on a implanté des arbres dans les parcelles, vraiment. La différence, elle est globale en fait, parce qu'on a aussi, on implante aussi chaque année des nichoirs. Et j'ai le bon souvenir de palisser dans une parcelle, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Et tu vois, de tomber comme ça sur un arbre et de me dire « Ah, c'est chouette, quoi !» Et en fait, ne serait-ce que ce moment-là, tu te dis bah, « C'est déjà pas pour rien de planter un arbre, d'avoir une éclaircie comme ça dans ta journée, de te dire « Putain, c'est cool !» Et je me souviens très bien de me faire engueuler en même temps par une mésange parce que, à mon avis, j'étais sur son territoire. Donc, j'ai vite fini, tu vois, de m'arranger de palissage et puis je suis passé à la suivante. Et je vois pas d'impact technique sur mes vignes, mais pour vivre des moments comme ça, je pense que ça vaut le coup, ouais.
Donc c'est plus sur la biodiversité, en fait.
Après, ouais, pour le coup, là, oui, pour cet exemple précis. Mais à terme, je pense que la démarche est globale et que le bienfait est global. Pour la culture de la vigne, pour effectivement les auxiliaires, pour à la fois faire de la concurrence aux racines, à la fois faire de l'ombre en été. Enfin, il y a vraiment des bienfaits qui sont divers et variés, quoi. Ouais.
Okay. Et comment se sont passées ces vendanges ? Alors, je m'éloigne un peu. Comment se sont passées ces vendanges un petit peu cataclysmiques 2020 ?
2021, ouais, les années passent. courte, rapide, succincte, je sais pas, je suis à la liste des adjectifs comme ça. Non, on est dans un secteur qui avons beaucoup perdu, je pense. Nous, on est à 10 hecto-hectares cette année. La raison est multiple parce que j'aime pas dire que c'est que à cause du mildiou qu'on a perdu beaucoup. On est toujours un peu joueur sur les traitements, on est toujours à la limite sur le fil, et cette année fallait pas l'être, et voilà, c'est pour ma pomme, mais on a la chance en tout cas d'être une société, parce qu'une entreprise qui avant de l'assise et un peu de stock. J'ai la chance d'être bien entouré de confrères qui ont bien voulu me vendre un peu de raisin en dernière minute. Et donc, voilà, on va peut-être faire des élevages un peu plus courts cette année.
Salut, patronne. Viens dire bonjour au micro, patronne. tu pensais que t'allais t'en échapper, mais non. Salut Aurélie.
Salut.
Comment tu vas ?
Bien.
Ce rendez-vous Schlossberg, c'est bien passé ?
Mieux que la dernière fois.
Court ou c'est parce que nous on était là que t'as un peu stoppé ?
Non, ouais, plus court parce que moins de débats, parce que plus de vignerons nature dans l'assemblée.
Ça a changé, les choses changent quand même. C'est plus de bon signe, non ?
Bah c'est clair, oui, tout à fait.
Ouais, il faut que ça continue comme ça.
La cave, ouais, donc ici on est en compagnie de Vieux Foudre. Donc les trois plus récents là sont les trois plus grands qui sont des petites piscines olympiques, hein, mine de rien. Donc 5400 pour le plus grand là, 5200, 4200 litres. On a une capacité à peu près ici de 1000 hectos. Et oui, donc les trois plus gros datent de l'installation de mon grand-père des années 70. Et les plus vieux doivent pas loin, doivent avoir une centaine d'années peut-être maintenant. Et voilà, la transition vers le millésime de 2021 est bien trouvée, c'est qu'ils sont tous vides, à part celui tout au fond à gauche où on a réussi à y mettre la cuvée Phoenix, qui est un pinot gris macéré. On a du coup 1000 hectos de capacité ici, comme je vous le disais, et à peu près 1000 hectos de capacité d'une cave plus moderne en inox qu'on utilise principalement pour les fermentations, les mises en bouteille. Donc 1000 plus 1000, ça fait 2000. Sur 11 hectares et demi, il y a quand même un couac. Et c'est ce que produisait mon grand-père il y a 50 ans. Et ce qu'on produit plus du tout maintenant. Donc on produit à peu près 500-600 hectos. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut faire en fait des élevages assez poussés, assez longs. Mettre le vin en bouteille au moment où on trouve, où on juge qu'il est prêt. Et que la seule contrainte finalement pour le vin d'être mis en bouteille, c'est une contrainte économique, quoi. Mais voilà, c'est un grand, grand, grand luxe qu'on apprécie au quotidien d'avoir de la place, en fait. Et tout ça au centre-ville d'un village, quoi. Et j'ai bon nombre de confrères qui mettent en bouteille le plus tard possible en août parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau millésime. Moi, je peux en accueillir plusieurs des millésimes. Donc, alors, des 2021, je peux en accueillir 10. Mais des 2020, on peut en accueillir 2-3, ouais.
C'était pas mal. Ça t'inspire ?
Oui, bah carrément. Et les élevages longs, du coup, qu'est-ce que ça va apporter au vin d'avoir des élevages comme ça ? Tu avais encore du 2016, donc le fait qu'il ait 5 ans d'élevage, qu'est-ce que ça va lui apporter à ton vin ?
Alors, de manière générale, comme on ne filtre pas les vins, on les élève assez longtemps pour que ça sédimente, pour que ça se mette en place. On fait beaucoup d'assemblage aussi, donc pour que le vin vraiment soit un tout unique, si tu veux, et qu'il n'y ait pas de dissociation selon les cépages, les trucs. Donc ça fait vraiment des vins qu'on trouve, qu'on juge, nous, plus stables, plus en place, si c'est pas un gros mot ça, c'est compréhensible je pense. Pour ce qui est du 2016, voilà, Aurélie et moi on est assez fans de ce qui se fait chez nos voisins du Jura, et voilà, c'est un Gewürztraminer oxydatif quoi, donc qui, pour le clin d'œil, on va mettre en bouteille au bout de 6 ans et 3 mois, un truc comme ça je crois, 6 ans et 7 mois, je...
Non, t'auras pas le droit, tu veux le mettre en bouteille façon vin jaune ou tu ne pourras pas, et tu le mettras en 75?
Je pense le mettre en 75, parce que je pense que bon, techniquement, enfin, légalement, j'aurais pas le droit de le... Mais non, en fait, je pense le mettre en bouteille 75 alsacienne, parce que, on en parlait avant pour les pétnates, c'est une méthode de vinification qui peut être finalement pleinement au service du terroir, et... ne pas finalement respecter l'identité de ce vin, ce serait pas juste pour moi en fait. Donc je tiens non à revendiquer le fait que ce soit du Gewürztraminer, du Grand Cru.
Avec des sols différents de ce qu'on peut trouver dans le Jura, du coup, enfin il y aura vraiment une différence entre un vin jaune et ton Gewürztraminer. On verra, on sentira la différence de terroir, quoi.
Ouais, je pense que la différence de terroir, va s'exprimer. Différemment, ne serait-ce que le terroir s'exprime, je pense, différemment à travers un cépage d'un autre, tu vois. Mais aussi parce que, effectivement, cet assemblage de grands crus Kefferkopf est un assemblage de deux parcelles, une sur des granites et une sur des marnes du Kuiper. Donc, c'est deux terrains assez différents qui mettent du temps à se compléter aussi maintenant.
Dans le T20 au début ou à la fin de ces longs élevages, du coup?
Alors, quand je suis arrivé sur le domaine, on assemblait les vins sur vin fini. Et ça m'a toujours paru être un peu de la cuisine. Et, alors, j'adore manger, mais cuisiner moins. Et donc on assemble sur raisin. Hein. Donc, tout est pressé ensemble, coupé ensemble. Et à travers ce type de vinification, c'est ce type d'assemblage, on a plus vite des vins qui forment un tout. T'as pas le Pinot Gris à gauche, le Gewürz à droite, le Riesling en bas, quoi. Et donc, voilà, je crois qu'on fait 90% de nos productions, c'est des assemblages, et on procède comme ça, ouais. Sauf année un peu particulière. Bah, cette année, c'était d'ailleurs une année particulière, 2021, à ce niveau-là. Parce qu'il y avait de grosses disparités de maturité, même au sein du même terroir. Et donc là, voilà, on... et puis surtout, je pense surtout à la mouche Suzuki qui commence à faire vriller, notamment les pinots, et qui n'ont pas pu attendre en fait que les Riesling et les Gewürztraminer, qui eux sont plus tardifs, arrivent à maturité. Et donc on a dû rentrer une partie, et puis après ça fait assembler sur jus, et ça finit de fermenter ensemble. Il faut. Je pense que c'est important de pas figer les choses et de continuer à réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Moi, les vieilles recettes de vinification écrites dans un grimoire, c'est pas notre truc, quoi.
T'es pas très t'es plus Star Wars que Harry Potter, alors c'est ça?
Ouais, peut-être.
C'est fini ta joke. je parlais de la grange de l'oncle Charles. Le fait qu'il ait quitté l'AOC, comment est-ce que toi, en tant que vigneron, tu as réagi, enfin, ce que tu en penses, si tu veux en parler ou pas, hein, après, je veux pas...
Ouais, moi je peux en parler assez librement. Pour moi, c'est un des plus grands échecs du 21e siècle du vignoble alsacien. Malgré son jeune âge, malgré le fait qu'il soit installé en 2014, c'est toujours quelqu'un qui m'a vachement inspiré, Jérôme. Et c'est un mec qui a débarqué dans le paysage du vin alsacien en se disant « je vais être vigneron, j'aime pas le tracteur, j'achète un cheval, je calcule mes coûts de prod, faut que je vende des bouteilles à 50 balles ». Et toi tu dis « ok, bon ». Et je pense que moi, comme beaucoup d'autres, il nous a aidés, bien malgré lui en fait, à nous poser des questions. Et tu vois, le voir devoir quitter l'AOC, parce que bon, c'est lui qui part de son propre chef, hein, c'est sûr, mais se sentir déprécié, se sentir mis en parallèle de l'AOC, moi qui le fasse, c'est presque un échec personnel pour moi, tu vois. Et donc, est-ce que c'est un mouvement qu'il faut suivre, qu'il faut encourager, je sais pas. Je suis profondément attristé également que tous les nos vignerons font du vin de France directement. Mais je leur en veux pas. Hein. Enfin, et puis d'ailleurs, je les salue, je les apprécie tous. Mais je suis profondément attristé que le mot Alsace soit pas sexy, quoi. Et que finalement l'interprofession ne soit peut-être pas à la hauteur de ses adhérents, peut-être. Je sais pas.
Et toi, comment t'as réagi quand t'as lu l'article de Jérôme François?
J'ai l'impression qu'en Alsace, par rapport à d'autres régions, on est un peu plus attaché à son appellation. Enfin, il y a peu de vignerons finalement qui font du vin de France par rapport à d'autres régions. Bon, en Bourgogne, c'est le prestige du nom qui fait vendre, donc forcément c'est différent. Mais l'Alsace, c'est pas forcément le cru qui va faire vendre. Et je pense que les consommateurs sont beaucoup moins attachés aux appellations. Et les appellations ont besoin un petit peu d'évoluer, quoi. On voit bien, ceux qui sortent de l'appellation, c'est pas ceux qui vendent le moins. Donc au final, il va falloir un petit peu s'adapter. Je pense qu'on est très attaché à son appellation. Il y a d'autres régions où ils sont beaucoup moins attachés que ça, quoi. Mais...
Après, on est en Alsace, on est assez conservateur aussi. On aime bien les traditions, on est bien marqué. Voilà. Mais bon, on passe à la dégustation, ce sera pas mal.
Bah allez, let's go.
C'est parti.
Mon parcours, ouais, depuis tout petit. Alors, j'étais un gamin qui aimait pas trop l'école, assez turbulent. J'étais plutôt du genre à taxer du matériel dans l'atelier, puis aller choper un marteau, des clous à 5 ans pour faire des cabanes, par exemple. Et plus tard, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai toujours vécu ici sur le domaine. Et les années passant, je trouvais ça un peu moins intéressant de faire comme papa. Et l'adolescence venant, je voulais plus du tout entendre parler de viticulture, de vin. Le décès de mon père, du coup, en 2002, où j'avais 14 ans, a encore plus marqué ça. Je voulais vraiment plus entendre parler tracteur, vigne, vin. C'était vraiment un truc. Allergique, limite pour moi, quoi. Et les années faisant, voyant que tout n'est pas rose sur le domaine, jeune adulte, je me suis rendu compte que peut-être il y avait quand même quelque chose à faire sans même savoir vraiment vers quoi j'allais, je pense. Et du coup, on a repris des études, j'ai dit parce que c'est là où on s'est rencontré avec Aurélie. Et donc, on a fait un BTS vitil nouveau à Roufac qu'on a fini en 2010. Moi, je suis arrivé du coup sur le domaine en 2011, Aurélien en 2012, après une licence complémentaire du coup en commerce vigne et vin. Et voilà, du coup, aujourd'hui, un couple épanoui avec un petit garçon, un cheval, tout va bien. Et voilà, moi, personnellement, je pense... quelqu'un d'assez simple, amoureux de vin, de vigne, de la nature, comme je te disais avant, passionné par l'histoire. Et maintenant, là, c'est vrai que cette nouvelle passion de l'attraction animale dont on parlait avant, est super prenante pour moi parce que je suis vraiment candide. C'est les prémices de finalement presque une révolution que je suis en train de d'ingérer. J'essaie de tout apprendre, tout savoir. J'ai cet appétit, je lis des bouquins, hein, je pose plein de questions, limite des fois être chiant avec mes confrères professionnels plus expérimentés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que la biodynamie, en tout cas, aujourd'hui, avec notre clientèle, n'est pas un vrai argument.
Mm-hmm. En fait. Ce
n'est pas parce que je fais de la biodynamie que je vends du vin.
Mm-hmm.
Mais c'est grâce à la biodynamie qu'on fait cette qualité de vin. Ça, c'est clair. Ouais. Et nos clients, ça, le reconnaissent, l'apprécient.
Mm-hmm.
Mais la biodynamie pour la biodynamie, je pense, c'est plus quelque chose de porteur. Ou pas quelque chose de porteur.
Mm-hmm.
Tu vois.
Ok.
Bah, peut-être réexpliquer, bon, on l'a déjà fait, mais c'est quoi la biodynamie ?
La biodynamie, ouais, vaste question. Alors c'est l'adaptation agricole, si tu veux, d'un mouvement de pensée initié par Rudolf Steiner, qui est un anthroposophe, philosophe de la fin du 19e siècle, qui a fait un célèbre cours aux agriculteurs. Et donc la biodynamie est finalement l'adaptation agricole de ce mouvement de pensée. Et que nous, du coup, on pratique au quotidien, en tout cas ce que nous on pratique au quotidien, c'est qu'on utilise plusieurs préparations à base, entre autres, de bouse de corne, donc la bouse de vache qu'on enterre dans une corne pendant 6 mois, pareil avec de la silice, donc c'est du quartz broyé. On porte une attention particulière, du coup... au coefficient des marées, on considère en fait vraiment l'univers comme un tout en fait, et on prend en compte aussi bien les astres que les coefficients de marée, comme je disais, qui sont étroitement liés finalement. Voilà, je m'arrête là parce que sinon on peut en parler des jours, hein, mais c'est peut-être je comprends qu'on puisse je comprends qu'on puisse ne pas comprendre, en fait. Mais c'est comme un peu... comme pour le vin nature, tu vois. J'ai beaucoup de confrères, tu vois, qui ont, je sais pas, une certaine animosité envers le vin nature. Je fais, mais... C'est pas grave. Enfin, et du coup, j'essaye de... Moi, qui ne bois pas de vin... Pas conventionnel, c'est pas le mot, mais un peu sulfité, un peu cadré, où j'aime moins ça... je me montre. J'essaie de me montrer plus respectueux envers eux qu'envers moi, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et on en parlait avant, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Si mon voisin fait quelque chose, alors dans la mesure du respect du vivant et du raisonnable, tu vois, je respecte, c'est pas grave, on fait pas pareil. Il faut tout pour faire un monde, quoi. Mais un peu de tempérance, quoi, je pense.
Et des tolérants.
Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as commencé à faire du vin nature ? Du coup, tu as goûté chez d'autres personnes ? T'as eu envie ?
Au fur et à mesure des dégustations, des bars à vin, quand c'est venu petit à petit. Et puis, c'est vrai que nous, dans le village, on connaît bien Christian Binaire. Et on s'est vite retrouvés avec d'autres vignerons, en fait, à en produire un peu. À échanger, je pense notamment à Catherine Ries, à Julien Bertus, qui sont des très bons copains, à se dire ok, ah, tu fais comment, tu fais ci, tu fais ça, et puis en faire de plus en plus, en fait, quoi, pour finalement faire que ça. Parce que avoir. Alors, encore une fois, je respecte complètement ça, mais avec Aurélie, on n'a jamais su faire de compromis sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on aime, et j'ai jamais envisagé ou pu envisager faire deux gammes de vin. Mais encore une fois, je respecte complètement ceux qui le font et j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que du coup, en 2014, je crois que c'était une année vraiment charnière. Donc on avait fait déjà des volumes assez importants en 2012-2013. Mais en 2014, j'ai pas mis un gramme de SE2 sur toute une cave et pas sorti le filtre, quoi. Donc c'était quand même assez drastique, quoi. On s'est pris des retours clients un peu. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de les accueillir, de leur expliquer quand même, et surtout à bien les conseiller.
Faisons ce qu'on aime bien en Alsace.
Skill.
Ma bouche. Ah, c'est le bon vin pour commencer là. Pour la dégustation, c'est t'as de la tension, t'as du fruit, t'as de l'énergie, de la vivacité, ça salive bien. Surtout, moi j'ai une petite salivation sur le côté. Il y a
à fond, ouais. T'as le côté agrume, t'as un petit peu d'amertume qui vient derrière, un toucher de bouche qui est quand même bien présent.
Ouais.
T'as un petit peu de tanin du coup,
ouais.
Mais ça reste super frais et salivant, appétant aussi. C'est bon,
ouais.
Ça approche de midi, 13h.
Ouais.
C'est peut-être ça qui fait, mais c'est hyper salivant, c'est clair.
Ouais. Moi je trouve ça, il y a du fruit, il y a un peu de tanin, une grappe entière. Non.
Raté.
Ah, raté.
Je vous laisse deviner ou je vous en
parle.
Bah, j'ai envie de dire Pinot Gris, mais j'ai envie de dire une petite macération de Pinot Gris. Mais
ouais,
il y a peut-être
ouais.
D'autres choses.
Bien, c'est ça, bien c'est à côté, ouais.
Bien à côté.
Moi, je pensais plutôt à un assemblage.
Ouais,
un assemblage avec un peu de Pinot Noir, bon, d'où le côté de tanin, ou Pinot Gris, oui, parce que bon, j'ai goûté pas mal de Pinot Gris en macération, donc c'est pour ça que grappe entière.
Non, ni l'un ni l'autre, ouais. Je retiens ce que tu as dit, en tout cas il y a un vrai côté salivant,
mm-hmm.
Et ça c'est assez touchant pour moi en fait que tu trouves ça, parce que c'est vraiment l'empreinte de ce terroir-là, qui est donc une partie du Kaffer Kopf,
mm-hmm.
Sur des marnes du Kuiper, du coup il y a vraiment c'est vraiment des vins qui font tout le temps saliver avec vraiment des très grandes longueurs dans la bouche.
Mm-hmm.
Mais sauf que là ouais, c'est du Gewürztraminer avec de la cerise, du coup donc c'est le nouveau...
Ah c'est celui-là. Mais il a évolué alors.
Alors c'est le nouveau Beetlejuice, donc avec les cerises 2021.
Ok.
Et du Gewürztraminer 2020.
Ah ouais. Voilà. Mais honnêtement, je trouvais que déjà la couleur elle était un peu plus rosée, me semble-t-il.
Ouais, il y a moins de cerises, ça a gelé.
Mais ouais, là je le trouve différent en fait. Enfin, des souvenirs que j'ai du premier, j'ai pas l'impression qu'on est sur le...
Les années suivent, mais ne se ressemblent
c'est
pas.
C'est ça qui est génial.
Ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est l'empreinte du terroir. On parlait avant de cépages qui, finalement, expriment de manière différente un terroir, ou un terroir qui s'exprime de manière différente à travers un cépage. Et enfin, là, de rajouter des cerises dedans, et alors, effectivement, du même terroir,
hein,
et de se dire, ok, là, le terroir, je le reconnais quand même, c'est grand. Enfin, il y a un truc, quoi. Je sais pas. C'est touchant, ça.
Et tu vois, je te dois remettre un peu bas, parce que pour moi, quand je l'ai goûté, c'était vraiment un vin d'été. Pour moi, c'était vraiment le vin qu'il faut boire quand il fait bien chaud. Et en fait, je trouve qu'il est pas du tout désagréable dans des périodes où il fait un peu plus froid. Il goûte totalement différemment. C'est comme ça. J'avais pensé, mais je savais que tu n'en avais plus et j'avais pas compris que tu l'avais refait. Non, moi, je trouve que c'est ouais, belle salivation. C'est bien.
Si tu prends un jus de cerise pur, tu auras cette différence de terroir aussi, du coup, ou tu as fait des essais là-dessus?
Non, j'ai ça très honnêtement jamais essayé,
mm-hmm.
Mais ce serait super intéressant. Et quand tous mes cerisiers, donc là on en a planté une quarantaine du coup sur le menu,
mm-hmm.
Produiront, hein, je pourrais faire des piscines olympiques de ce vin-là, et puis on pourra s'amuser à faire des comparatifs et tout ça.
Mm-hmm. Et bah, vu qu'on partait sur une macération, oui, c'est même plutôt un vin d'hiver habituellement qu'un vin d'été. Mais ouais, il y a quand même le côté acidulé qui vient contrebalancer les tanins qui sont présents, donc c'est hyper intéressant. Quoi.
Donc le Gewürztraminer était macéré, donc
ouais.
Il y avait une vraie structure tannique.
Mm-hmm.
Et d'expérience, parce que ça fait la deuxième année qu'on le fait, je trouve ça super bien complété en fait par le côté très noyau en fait de la cerise. Donc les cerises sont simplement équeutées, écrasées, mis en macération, et on vient rajouter une barrique de Gewürztraminer de la même parcelle de l'année d'avant, parce que vous aurez,
oui.
Vous apprends pas que les cerises et les raisins ça mûrit pas au même moment. et du coup ils m'ont fait macérer tous les peaux des cerises et les noyaux, et je trouve que les deux tanins, parce que finalement, ces deux tanins différents, ça marie super bien.
On a combien d'alcool, du coup, là-dessus sur...
Bah, je dirais 12, un truc comme ça.
Ouais.
Alors, la cerise pure... donc, alors, c'est la cerise cœur de pigeon, donc c'est vraiment des cerises à croquer. Hein.
Mm-hmm.
Et à 7 de potentiel, un truc comme ça.
Okay.
Et puis, le Gewürztraminer doit être à 14. Là. Et là, on a 20% de cerise. Donc là, malheureusement, les cerisiers ont gelé. contrairement à 2020, enfin la récolte de cerises, il faut mettre des nuances du coup sur les millésimes, où du coup la récolte de cerises était super généreuse, où on avait fait un 50-50.
Ok. Ouais.
En tout cas, très bon moment pour commencer.
C'est clair.
Je ne sais pas ce que tu en penses. T'as des... Ah, si, ah, regarde, il y a les moustaches qui
frétillent. C'est l'autre côté un peu. Donc, ça fait, ouais, comme je vous disais avant, quelques années qu'on plante des arbres.
Mm-hmm.
Et on plante aussi donc des variétés de champêtres, donc pas fruits chers. Et ça me fait toujours un peu mal. Enfin, c'est mon côté paysan, quoi. Si déjà je plante des fruits, enfin des arbres, il faut. Hein, c'est vrai. Tu vois ce côté paysan, là. Et enfin, j'assume, hein, ça va, c'est cool. Et au début, on plantait complètement de manière aléatoire dans la parcelle.
Oui.
Et maintenant, alors c'était que du feeling, hein, mais j'implante des variétés de fruitiers dans des terroirs précis.
Ok.
Du coup, on a une cuvette de granit onoïtal où on met des coins, on met les cerises sur les purbergs, sur les marnes.
Mm-hmm.
Sur le pulben, c'est des pêches. Et peut-être qu'à terme.
Et du coup, les arbres sont au milieu de la parcelle, ils sont sur.
Ouais, c'est dans les parcelles. Ouais.
À la place de manquant, du coup,
c'est ça.
Dacmas, le chabinaire, l'huile de pépins de raisin, du coup, et le côté terroir qui se retrouve aussi dans l'huile. Si elle se retrouve aussi sur des fruits, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se faire, et c'est passionnant, quoi.
C'est ce qui est passionnant dans notre métier. Et puis je vous en parlais avant. C'est le côté vieux grimoire nous ennuie un peu. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours finalement à faire, à réinventer, à produire, quoi.
C'est pour ça que les cidres et les poirées aussi, on en entend de plus en plus parler. Ce que fait le quoi de chaleur là, du domaine Aquilé, j'aime beaucoup la démarche aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont possibles, quoi.
D'ailleurs, c'est une inspiration un petit peu. Enfin, ils t'ont inspiré dans cette idée là de vendre du fruit avec. Parce que je crois que c'est les pauvres. En tout cas, de mémoire, c'est les premiers qui ont fait ça. Les frères Dietrich.
Peut-être inconsciemment. J'avais pas percuté qui faisait ça, mais c'est vrai que ouais, peut-être inconsciemment.
Ouais. Ok. Non, mais franchement, c'est et d'ailleurs le retour des clients, ça a été comment? Parce que c'est toujours aussi intéressant que
bah ils disent il y en a pas assez, quoi.
Oui, ça, oui, ça. Il y a des cavistes qui me l'ont dit aussi.
Et ouais, parce que bah du coup sur des commandes d'export, je pense que les gens, les importateurs les gardent pour eux, quoi. Parce qu'ils en ont 12, 24.
Ouais.
Mais tout le monde est content, c'est rigolo. Non, mais on est ravis.
Je trouve que c'est bon aussi. Passe au deuxième.
Ouais, parce que là, tu disais que ta gamme était grosso modo divisée en deux, entre des vins rigolos qu'on a envie d'ouvrir à toute occasion, et puis d'autres vins un peu plus sérieux. C'est à peu près ça ce que tu nous as dit dans la cave.
Ouais, pour simplifier, les
oies d'arbre sont pas. Donc là, un peu plus sérieux, du coup, de ton point de vue.
Ça, c'est sérieux,
ouais.
Quand même, déjà. Quand je parlais de cuvée rigolo, je pensais au Phoenix, au B-Wine,
okay.
Qui représente, alors, pas 50%, mais plutôt 15% de la gamme.
Okay.
Que ça nous tient à cœur de faire ce genre de cuvée, et comme je vous disais avant, d'avoir des cuvées plus populaires, mais des cuvées de terroir, option cerise, ouais, on peut en rigoler, mais c'est des cuvées que je fais sérieusement, tu vois.
Ouais.
Tout comme celle-là,
d'ailleurs.
Le Ginec Closberg à qui je viens vous servir. Je me permets de faire la transition ou je te laisse faire?
Fais libre.
Donc, le Ginec Closberg, c'est le deuxième grand cru qui est présent sur le domaine. On a une cinquantaine d'arts. Et c'est un vin qui m'a très très longtemps posé problème. Je ne savais pas quoi en faire. Comment le vinifier, comment le valoriser. Parce que forcément, quand tu as un Riesling classique, un Riesling Vieille-Vigne, un Riesling Grand Cru Kefer Cup, un Riesling Ginec Closberg, voilà, ça posait beaucoup de questions. Notamment parce que il voulait ne jamais finir ses sucres de lui-même, disons. Et du coup, c'est posé à nous la question de la macération, qui ramène toujours des dynamiques fermentaires plus efficaces, plus rapides, plus simples. Et donc on a pris cette voie-là, et par chance, ça a bien marché, et c'est bon, quoi. Mais c'était un parcours moral, c'est-à-dire que ça, un peu space, quoi, un peu particulier. Et puis c'est d'ailleurs une parcelle un peu particulière, parce que c'est la seule parcelle qui n'est pas sur la commune,
mmh.
La commune des voisins.
On parlait de guerre de clochers avant, voilà. Enfin, quand je vais là-bas, je suis pas chez moi un peu, quoi, tu vois. Et puis c'est une parcelle donc qui est sur des granites à demi-ca, donc tout en haut. Donc vous êtes à Castental, vous regardez le château, c'est des parcelles toutes derrière en lisière de forêt. Donc c'est des parcelles plein sud, très abruptes, avec très peu de sol. Mmh. T'en plantes un piquet là-bas, c'est la Croix la Bagna. Et donc, c'est, ça fait des raisins qui partent, en fait, finalement, la nature de leur terroir sont un peu bizarres, parce qu'il n'y a pas de sol, parce qu'il y a du stress hydrique chaque année. Et donc, ils sont comme ils sont, mais du coup, ça fait des vins qui patinent vite, qui ont du mal à fermenter, et tout ça. Et la macération était une réponse, un peu, finalement, à ça, et au potentiel technique-œnologique pour finir des sucres, pour faire des vins...
Le silence religieux.
Encore une fois, alors, une belle salivation. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ça peut être bien salivé, mais...
On est un peu comme le précédent, c'est-à-dire que les tanins sont présents, ouais. Mais ils sont soyeux, là, ils ne sont pas durs. Ouais. Et toujours cette finale fraîche, très salivante, qui est un peu plus large, peut-être, que le précédent.
Une énergie dégâts de thé, les deux qu'on a goûté, même ceux que j'ai déjà goûté avant, mais moi c'est ça qui me frappe, cette énergie. Après, est-ce que c'est dû au terroir aussi? J'en sais rien, mais ouais, encore une fois on trouve cette vivacité là.
Tu fais une macération de combien de temps là, du coup? Sur...
là c'est complètement égrappé.
Ok,
c'est élevé, c'est macéré un mois du coup, avec un montage tous les 2-3 jours.
Mmh.
Et c'est élevé en graines.
Ok. Ouais.
Donc c'est des vins, donc on parlait d'élevage avant, c'est des vins qui, en tout cas avec notre cahier des charges, supportent assez peu finalement les élevages très ouverts, très foudres, très barriques.
Qu'est-ce que tu veux ?
Et donc on essaie de rester dans un milieu un peu plus réducteur, en fait. De le protéger plutôt, lui, l'oxydation, de faire très attention à la mise en bouteille, parce que, on en parlait avant, de par la nature de son terroir, c'est des raisins qui sont fragiles et qu'il faut pépiner un peu, combiner, tu vois, faire vraiment apporter une attention particulière en fait à ces raisins.
Et t'es passé d'une année sur l'autre à du pressurage direct à une macération d'un mois comme ça, t'as pas eu de
transition, un petit pétlate de transition.
Ouais,
qui est super chouette. C'est... Et mais tu prends un pressurage direct, le pétlate est celui-là. C'est alors la tannicité en plus, mais t'as vraiment la même salinité, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Et ça paraît un peu bizarre, mais moi j'aime bien connecter des fois un peu le vin au ressenti du lieu, tu vois, à l'esprit du lieu un peu. Et le Zinnenklausberg est un terroir qui est froid, direct, démonstratif, tu vois. C'est presque un peu hautain, tu vois. Quand t'es tout en haut comme ça, tu surplombes toute la plaine d'Alsace, tu vois. Tu passes un peu comme ça, et moi ce vin me fait penser un peu à ça, tu vois. Enfin, il est là, ouais. Il est là, tu vois, la bouteille est à peine ouverte. C'est très, très aromatique, très démonstratif, tu vois. Donc je suis là, pour pose mes galons.
Déjà la couleur qui est très belle, le côté un peu orange, un peu caramélisé, je trouve ça magnifique. Parce que forcément nos éditeurs ne le voient pas. On m'a reproché qu'on décrivait pas assez les vins.
Ouais, au niveau de la couleur.
Ouais. Donc on va s'y plier un petit peu. Ouais. Et c'est vrai que ouais, le côté bien orange, moi me plaît beaucoup. Bon après, de toute façon, moi j'ai quasiment noté, je dirais maintenant 30-40% des vins que je bois, c'est des vins oranges. En tout cas, en macération, oui, sûr. Je sais pas, toi
Bon, un peu moins. C'est comme sur les pétillants naturels, on en parlait tout à l'heure. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même un terroir, qu'il y ait quelque chose qui soit derrière. On a trop vite fait de faire un muscat en pétnat. Bon, c'est très floral, c'est très sympa à boire, mais il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Les macérations, il y a un peu souvent aussi ce problème-là, que ça peut lisser certaines fois les vins, mais là il y a de la salivation, de la salinité, donc il y a quand même un terroir derrière, donc c'est très bien.
Et c'est vrai que c'est je trouve que c'est assez magnifique. Moi ça me plaît.
Moi c'est gentil.
Ou les vins oxydatifs, on a aussi ce problème là sur certains vins oxydatifs où ça peut les lisser un petit peu.
Non mais celui-là il y a vraiment une émotion qui se dégage et qui le rend à la fois très accueillant. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup. Là, il m'a touché celui-là. Ouais.
Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du Riesling.
En fait, je pense même pas poser la question.
Tu l'as sous-entendu.
Ouais. Mais c'est ça qui est beau, c'est parce qu'on parle que du cru là. Et c'est ça qui est important en fait. Et enfin, aller donner ça à la personne que vous croisez dans la rue, une personne lambda, vous dites lui que c'est un Riesling, mais il va mettre ça à l'ego quoi. Hein. Dites que c'est un Riesling Schlossberg, en grand cru, il va se dire ah, tu as goûté. Ça, je crois que c'est un complexe qu'on se fait, nous, Alsaciens, un peu. C'est même ces trucs. Parce que ce que je me plais à dire, parce que j'habite à Merchur, je m'appelle Geschicht, et que le grand cru, c'est Kefferkopf, tu vois. Et, mais.
Beau Scrabble.
Ouais, tu vois. Mais. J'ai plein de clients français, étrangers, qui sont absolument pas choqués par ça.
Non, après.
Tu vois, au Japon, ils savent tous prononcer Vinay Schlossberg. Hein. Mm. Sans problème. Et ouais, non, n'ayons pas peur de notre histoire germanophone, tu vois. Moi, je le revendique pleinement. Enfin, on a tous les trois des skills, quoi.
Ouais.
Pourquoi on mettrait du français à la place de notre allemand sur les bouteilles, quoi. Enfin,
faut l'assumer.
Je pense, ouais.
Du coup, toi, tu mets jamais de soufre, tu ne filtres jamais, tu ne mets jamais rien dans tes vins.
Alors, moi, je m'interdis rien.
Ok.
Pour exemple, je pense, si mes souvenirs sont bons, ne pas avoir mis de SO2 en 2014, en 2015, peut-être un vin en 2016, il me semble, pas en 2017, en 2018, j'en ai suscité 4.
Ok.
En 2020, un vin, une cuvée a nécessité une filtration, j'ai fait. Je ne grave rien dans la roche.
Ok, une course nécessaire.
C'est nécessaire. Je me refuse rien, en fait.
Ok.
Je veux dire, on ne se refuse rien. Parce que, encore plus, là, ces derniers mois, on collabore vraiment sur les cuvées, sur les vinifications avec Aurélie et Jean, notre salarié. Mm-hmm. Et qui sont peut-être un peu plus on met pas que moi. Et non, ouais, j'essaye en tout cas de ne pas être muté et de savoir intervenir quand vraiment il faut. Mmh. Et même si les sages diront que c'est dur de rien faire, des fois c'est trop dur pour moi.
Mmh. Une conviction.
Et quand est-ce qu'il faut filtrer du coup? Parce que rajouter du SO2 parce qu'on sent que ça peut partir un peu. Ce sera... C'est stable, je peux comprendre. Filtrer du coup.
Avant, on avait tout essayé et il fallait dégrossir un peu le milieu microbiologique plutôt.
Okay.
Avant de le mettre en bouteille. Mm-hmm. Mais c'est pas grave, hein. J'assume, le vin est bon,
oui.
Pas de problème. Mais c'était des sueurs froides, hein, parce que je me souvenais plus comment utiliser un filtre et tout. J'ai pas utilisé longtemps les filtres, tu vois. C'est pas comme si j'ai utilisé des filtres pendant 30 ans et que j'ai arrêté, tu vois, et que j'arrête 5 ans. Ça faisait 5 ans, 5, 2015, 6 ans que j'avais pas utilisé un filtre. Mais ça va. J'étais à l'école, j'ai des restes. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je suis sorti.
Bon, je vais prendre un petit peu d'acide.
Tu as les yeux qui pétillent.
Ah ouais, non, mais le nez, je l'ai mis qu'au nez. Mais alors là, il y a une acidité qui va chatouiller. Après, moi, c'est vrai que je suis assez friand de ce genre de choses.
C'est assez intéressant de les goûter dans cet ordre et à la suite. Parce qu'on parlait du côté vraiment, tu sais, petit cocon, du Vinay Schlossberg, c'est des raisins où il faut être vraiment très attentionné. Et le Kefferkopf, du coup, donc tu voulais un millésime un peu ancien, donc c'est un 2016. Alors, je n'ai pas sorti le 96, mais 2016, c'est déjà pas mal.
Je ne voudrais pas, t'inquiète pas. Ça va déjà très bien.
À l'inverse, ça fait donc c'est des vignes qui proviennent de deux entités géologiques différentes, cette cuvée-là en tout cas. Donc il y a ces marnes du Kuiper dont on parlait avant et des granites à demi-K, mais qui ont la particularité, le lieu a la particularité d'avoir été saupoudré en fait par le vent d'un Deleuze. Et donc ça ramène beaucoup de sol, beaucoup de structures et du calcaire. Et donc c'est un endroit assez particulier. Et donc on a assemblé ces deux parcelles-là. Et donc, en fait, c'est des vignes qui vont vachement bien. Il n'y a jamais de carence hydrique, aucun problème à pousser. Au contraire, on est plutôt à essayer toujours de réfréner un peu les vigueurs. Et du coup, c'est un vin qui est absolument éternel. Hein. Enfin, que je sers au caveau sur une semaine, que j'élève 3 ans sans problème. Enfin, ça, c'est 20 mois. 20 mois, mais qu'en 2016. Et c'est super fringant, super frais. Et voilà, de par la nature de leur terroir, c'est deux vins qui sont finalement très différents. Et puis, c'est un pressurage direct aussi.
Mais moi, c'est cette salinisation qui me rend...
Très, très longue, ouais.
Ouais, très longue. Encore une fois, l'énergie... Je vais me répéter de la vivacité, mais c'est vraiment ça. Au niveau de la couleur, on est sur quelque chose... Alors, il est non filtré, hein. Toujours, tes vins sont non filtrés. Oui.
C'est les 20 mois qui font...
Non, parce que comme les gens ne le voient pas forcément, c'est toujours intéressant.
Oui, donc c'est... Ça me rappelle mes années à l'école. C'est quand même un vin or assez soutenu, qui n'est pas complètement limpide. Donc on voit qu'il y a un léger trouble, qui a été élevé 20 mois en foudre, et tiré directement du foudre à la bouteille, tout simplement.
Et moi, je trouve que, encore une fois, moi, c'est cette énergie que je trouve incroyable.
C'est exceptionnel, mais c'est intéressant que tu aies parlé de l'ordre, parce que c'est vrai que le mettre après une macération, je me serais posé la question.
Ouais. Hein? D'ailleurs, je me suis dit, quand il l'a servi, je me suis dit, ah tiens, il me servait.
Mais il y a une telle fraîcheur, il y a un côté vraiment vigorant, bon, c'est très... C'est magnifique. Les dates d'évolution, la salivation qui est très longue, ça a du sens, quoi. Il ne se fait pas écraser par le précédent, quoi, ça a complètement du sens.
Je trouve que ça va de... Bon, après, c'est vrai que le Kefirkopf, on connaît, enfin, je crois que c'est le grand cru que les Alsaciens se mettent le plus. Et puis, tout à l'heure, j'ai eu un message de Tien Binet, forcément envie de le Kefirkopf, donc voilà, c'est plutôt bien. Mais non, c'est 2016. Tu ne la sortiras pas, mais j'ai pas envie non plus. Mais c'est vrai que du coup, la 96, elle me laisse encore plus curieux que ça.
J'ai dit 96 comme j'aurais dit autre chose, mais je sais même pas si j'en ai.
Et l'étiquette, du coup, qu'est-ce que c'est qui l'a fait? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, chez nous, il y a toute une démarche évolutive des étiquettes, enfin, qui est en perpétuelle évolution. Cette étiquette de Kefirkopf 2016, donc c'est un nu féminin, plus que suggéré, mais un peu dans un style Picasso. J'espère que des puristes, artistes puristes, n'écoutent pas. Ça met un peu, on voulait un peu rendre hommage au côté très avenant, presque charnel un peu du vin, tu vois. Et finalement, et presque un peu maternel, si tu veux. Le Kefirkopf est un grand cru très, très réconfortant, en fait, presque maternel, justement, c'est ça. Où la vigne s'y porte bien, où c'est plutôt la culture facile, où il y a finalement assez. Même techniquement, en fait, il y a peu de pente, tout est cool, en fait. C'est quelque chose de réconfortant.
Il est plus caresse que...
Katzenthal, quand j'y vais en tracteur, je me dis, on se concentre encore un peu, tu vois. Et je pense que ça se ressent un peu dans l'énergie des vins, ça. Et voilà, enfin, je vais pas m'éterniser sur ça, mais pour pas commettre de maladresse, mais voilà, c'était l'idée de cette étiquette-là. Alors que le Vinex Schlossberg, du coup, donc c'est ma compagne Aurélie qui l'a fait. Donc, il a dessiné avec une aquarelle en fond. Et ça rend plus, du coup, hommage au côté très, très brut, à la couleur du sol, du vin, tu vois, l'aquarelle. Et le côté un peu presque squelettique de la vigne, tu vois, qui presque se lignifie, se raidit, tu vois. Ouais. Et après, effectivement, on a plein... d'autres étiquettes avec d'autres artistes avec qui on collabore. Enfin, c'est des longs débats, les étiquettes. Et on est encore en plein dedans. Enfin, on est toujours en plein dedans, j'ai l'impression.
C'est vrai que tu as des styles très différents. Quand je vois là-bas derrière le Cadavre Exquis et l'Obi Wine qui sont...
Oui, ouais, alors le Cadavre Exquis, c'est une collaboration entre 4 artistes strasbourgeois
okay.
qui qui, en fait, le cadavre whisky, c'est une cuvée de Solera. Et donc c'est l'assemblage de, en tout cas pour la cuvée qui est concernée par cette étiquette, de 4 millésimes, 15, 2015, 2016, 2017, 2018. Et quand notre quand Tom 500 qui nous fait Obi-Wan et Phoenix est venu dans la cave, Aurélie lui a expliqué le truc, il a dit ah mais comment un cadavre whisky. Et là tu dis ok on arrête tout, on garde, enfin tu vois, et souvent enfin chez nous en tout cas, à faire une mauvaise généralité, c'est ce genre d'évidence qui fait que ça marche. Et il a dit ok banco, j'en prends 4, un par millésime, et on fait un cadavre whisky quoi.
Parfait, mais c'est bien. Moi, j'aime ça. J'aime bien cette créativité. Justement, une question sur la créativité.
Oui.
Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la créativité?
Oh là là,
tâche. C'est au bac de philo en 98, justement.
oh punaise. Une relation entre le terroir et la créativité. Bravo. Bravo. Il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on peut toujours trouver des liens, ouais. On a combien de temps au bac? 4 heures. Et effectivement, en fonction de... En fait, ça me revient par rapport au Vinek Schlossberg d'avant, entre le terroir et la créativité. Et il y a, avec les aléas climatiques qu'on connaît, les cépages qui sont installés en Alsace, des... dégénérescence en fait, si tu veux, des choses qui marchent plus, tu vois. Que ce soit des cépages, des manières de faire les choses, de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement, avec les plans de palissage, un domaine de haut, tout ça, qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager de nouveaux types de vinification, genre une macération d'un mois égrappée puis élevée en amphore, tu vois. C'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand-père, il va rien comprendre, quoi, alors qu'il a fait du vin toute sa vie. Et donc je pense que ouais, tu vois, pour ce genre de choses, pour finalement s'adapter, pour se renouveler, pour aller de l'avant, pour faire mieux, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir. Par rapport aux étiquettes, puisque je pense que tu voulais faire allusion à ça aussi, et par rapport à Florian, qui est un très bon copain. Donc nous, voilà, vous connaissez un peu nos étiquettes, hein, c'est plutôt un style un peu épuré, artistique. J'étais chez lui lors d'une AG de la Vla, et il a une collection d'étiquettes absolument dingue que sa mère faisait, un truc comme ça, donc très genre, tu vois... old school, quoi, tu vois, avec les trucs, les collerettes, les machins, les maisons à colombages, tout. Et puis je les ai regardés, puis enfin, je sais pas, ça m'a ému. Je me suis dit, ah, moi j'ai quand même perdu ça. Et je pourrais plus revenir en arrière, mais ça, je l'ai perdu, ça m'embête un peu.
Même en faisant un peu le côté un peu graphique de la maison à colombage,
je peux pas, ouais, non, je l'ai perdu, je peux pas y revenir, c'est plus envisageable. Alors que voilà, on avait encore le dessin de la maison et de la fontaine il y a quelques années, quoi, mais je pouvais plus voir ça, enfin c'était allergique, c'était impossible. Et là, ouais, je sais pas, c'était un moment comme ça, je me suis dit, ah, bah, je l'ai perdu, tant pis, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, quoi.
Ah, mais c'est ça qui... justement, tu parlais de la Vla, alors je me permets de rebondir. Donc, l'Association des vins libres d'Alsace, bon, nous, on sillonne les rues, les routes d'Alsace maintenant depuis 2 ans avec le podcast. On est amené à rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des vignerons, des vignerons, et je trouve ça assez incroyable. Est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch? On parle souvent de la French Touch. Ouais, est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch, d'un courant un petit peu comme ça, alsacien, qui aujourd'hui s'assume, qui est solidaire les uns envers les autres? Je trouve ça assez incroyable. C'est pas le monde du business non plus, mais c'est plutôt pas mal. Donc est-ce qu'on peut parler d'une Alsace Touch?
En parlant de bisounours, franchement, je pense qu'au sein de l'Avla, c'est vraiment le monde des bisounours. Enfin, je sais pas s'il y a une autre région qui arrive en tout cas à se fédérer aussi bien, aussi naturellement. Et
pour faire un événement où il y a juste la promotion du vin sans vente, non, ça n'existe pas.
Ou c'est toi qui sers les vins des copains, et oui, tout ça, et ça, où t'es d'ailleurs ça tous copains, et tout ça. Restons sur cette image-là de l'Alsace, mais tout le reste n'est pas forcément rose, quoi.
Tu vois ce que je veux dire?
Et mais la Vla, ouais, c'est juste dingue. Et ah, ça fait vieux con, mais je j'étais pas trop présent au Summerfest en journée, et j'étais hyper agréablement surpris de pas connaître tout le monde, quoi. Tu vois, un mec que je croise avec le t-shirt. Et qui me dit, ouais, je fais ça, je fais, ok, enfin, je pourrais même pas encore maintenant te dire qui c'est, mais je trouve ça génial, quoi. Et enfin, j'ai hâte de les rencontrer et de boire des coups avec eux, quoi.
Donc, on parle d'une Alsace-touch.
Ouais, allez.
on passe au moment sauvage, il faut cuisiner un peu.
Vas-y. Bon. Tu l'as préparé, tu l'as.
Non, là, j'ai un peu remodelé, j'ai un peu changé les choses, mais en fait, le moment sauvage, voilà. Je te donne des questions et il faut que tu répondes rapidement.
Ok.
Si tu devais être un terroir, tu serais quoi?
Kefarkop.
Ok. Si tu devais être un cépage.
Riesling.
Ok. Un vin avant l'amour.
Un vin avant l'amour.
Qu'est-ce que tu bois avant l'amour?
Ah, les deux. Ouais, allez, Kefarkop. Est-ce que je peux répondre Kefarkop à toutes les questions?
Adrien, il a tourné la demoiselle. après l'amour.
Kefarkop.
Ok, alors en fait, il nous l'a fait à la. C'est quoi, les inconnus? Stéphanie, voilà.
Je vais essayer.
Kefarkop interdit cette fois-ci.
Ok.
Non, si tu devais. Aujourd'hui, tu es vigneron ici. Domaine Geschicht, voilà. Et non, demain, je te donne une baguette magique, tu dois être un autre vigneron.
Un Jura?
Non, un vigneron.
Ah, quelqu'un ouais. Incarné, ouais. Alsacien?
Pas forcément.
Oh là là, trop de choix. Je sais pas, franchement, je peux pas te répondre très rapidement et te donner un nom, mais peut-être je serai un vigneron plus libre, moins d'attache, moins de surface. Moins de crédit à la banque, enfin tout ça. Truc okay. plus simple, moins de surface, plus facile. Peut-être aller m'acheter 2 hectares au fin fond de l'Ardèche, tu vois, avec un cheval et ma femme et mon gosse. Et okay. Un truc comme ça.
Tu vas sur une île déserte, t'as pas le choix, tu dois emmener une cuvée, tu emmènes quoi?
Kefarkop.
Kefarkop, j'ai dit.
Ah, pardon. Bah, Beetlejuice, c'est du Kefarkop.
Mais il va sortir.
Quel millésime?
Pour le Kefarkop,
ouais.
15, c'est vraiment un vin que je comprends pas, qui a un taux d'alcool incroyable, qui a tout pour être un vin chiant et qui est extraordinaire.
Alors je vais prendre la question que pose toujours Yann Yolo du sourire du vin. Quel est le pouvoir magique du vin?
Créer du lien, c'est clair.
Créer du lien?
Ouais.
Quel est le pouvoir magique du vin?
Le pouvoir magique, ouais, là, c'est créer du lien, c'est une réponse qui est magnifique. Ouais, c'est...
Je crois qu'on aime bien cet optimisme.
C'est le partage, ouais.
Je me souviens d'Imad à Brut, c'est un jeune des réfacteurs qui savait pas quoi faire du Munken, il a dit à Biarritz, donc il s'est dit, bah, où est-ce que je veux voyager? Il est arrivé à Brut, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où les gens. Tout le monde est positif, tout le monde est accueillant, on te regarde pas de travers, quel que soit d'où tu viens, la couleur de ta peau, etc. Et je trouve que c'est ça plutôt, c'est génial, non? Souvent on se dit qu'on vit dans un monde parallèle, t'as aussi l'impression de vivre dans un monde parallèle.
Mais moi je fais partie des gens qui trouvent le monde actuel profondément dégénérescent et j'ai besoin de ces mondes parallèles, ouais.
Je pense que ça nous fait du bien, en fait. Mais ça nous déstabilise aussi parce que quelque part j'ai envie de. Peut-être que dans ce monde parallèle-là. C'est peut-être pour ça que je parle autant de vin, en fait. Je vais me faire une psychanalyse, je crois. Il est temps. Je vais voir un psy. Il est temps.
Si t'es bien dans ton monde, dans ta tête, reste-y.
Et si tu devais être un vigneron alsacien, tu serais quoi? Tu serais qui?
Qui? Oh là là, franchement, je sais pas, mais Eric Kam, ça me plairait bien quand même. Ce serait marron, quoi.
Ah oui, c'est assez drôle.
Fusion, tu vois.
Tu l'as goûté, sur Fusion?
Ben non, j'ai pas eu cet honneur.
J'ai eu cet honneur-là et. Ouais, j'aime beaucoup le personnage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022?
Du raisin.
Et des papilles.
Et des papilles.
C'est facile. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Ouais, des bonnes choses professionnellement, que voilà, c'est surtout que ça aille bien et que voilà, que je puisse partager au maximum ce que je propose à mes clients. Et puis
on va continuer de toute façon à enregistrer. Et à ce moment-là, moi, je voulais te remercier parce que c'était un moment agréable.
Merci à toi.
J'ai toujours aimé tes vins et d'ailleurs, alors j'ai noté ce que Benoît disait de l'œnosphère et ça me permet de vérifier si c'était vraiment vrai. Ce qu'il a dit, non. En fait, j'ai posé la question à quelques cavistes un petit peu de ce qu'ils pensaient du domaine des Geschicht. Et Benoît, avec qui on a fait un podcast qui avait très bien marché, qui a été très apprécié. Donc des vins droits, nets, salins, mais aussi bien funky, de belles personnes. Je trouve que ça le ressemble plutôt bien, non?
Ah ben, c'est pas quoi dire, je suis niche.
En tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. J'ai perdu la phrase quasiment. À très bientôt, merci Arnaud. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.